voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Bienvenue dans le grand rendez-vous et nous venons de l'apprendre. C'est aussi l'avantage du direct que la Cour constitutionnelle centrafricaine a rendu sa décision sur les candidats pour la prochaine présidentielle, précisément le 27 décembre 2020. Et nous allons en parler évidemment dans notre émission. Nous l'apprenons d'un de nos invités, Nicolas Tchangaï, ancien Premier ministre et porte-parole du CO2 2020, la coalition de l'opposition. Et avant de débattre donc de cette élection présidentielle et législative en Centrafrique, parlons de Diego Armando Maradona avec le témoignage d'un footballeur, goalkeeper, qui a eu à jouer dans une pièce de théâtre à Barcelone en Espagne avec la star argentine et génie mondial du foot qui nous a hélas quitté cette semaine. On écoute Thomas Nkono et on se retrouve juste après pour parler de la Centrafrique.
Dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Thomas Nkono, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien gardien de but de l'équipe nationale du Cameroun et aussi de l'Espagnol de Barcelone en Espagne. Vous avez eu à côtoyer, quand vous étiez en Espagne, Diego Armando Maradona. À quelle occasion vous l'avez rencontré ?
En disant que nous sommes arrivés tous ensemble la même année, puisque moi je signais à l'Espagnol de Barcelone en 82, lui aussi le faisait au FC Barcelone la même année. Donc le premier derby, ça a été contre eux et nous avons eu l'opportunité de faire des photos parce que pour pouvoir, disons, habiller l'événement et tout ça. Donc, c'était la première fois qu'on se rencontrait.
Et son premier match était le 4 septembre 1982 au Barça contre Valencia. Quelle est l'appréciation les supporters avaient de Armando Maradona? Quels étaient ses rapports avec les supporters barcelonais?
Non, vous savez, c'est déjà... Nous, personnellement, on le voyait à distance parce que, étant dans un club différent, c'était voir, disons, comme on dit ici chez nous, voir le taureau derrière les barreaux, quoi. Donc, c'était que de l'admiration pour lui. Et je crois que c'était quelque chose de nouveau, une nouvelle vedette qui arrivait dans le championnat espagnol. Donc, c'était que de l'admiration.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il a particulièrement brillé pendant ce championnat parce qu'il aura joué 58 fois sous les couleurs de cette équipe et il a quand même inscrit 38 buts?
Oui, c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance. La première année, je crois qu'il n'a pas joué tout le championnat. Il a eu une blessure grave qui lui a fait, perdre, disons, presque la moitié du championnat. Et la deuxième année, je crois qu'il a eu aussi de l'hépatite. Et ça fait que ça perturbait un peu sa
performance.
Son chemin, disons, au niveau de son club.
Est-ce que ça, c'est la bonne version? Allô?
Oui, je vous écoute.
D'accord. Donc, vous disiez, il n'a pas eu, les raisons sanitaires ne lui ont pas permis de jouer pleinement. Mais est-ce qu'il était déjà aussi... populaire comme il est devenu par la suite? Est-ce qu'à l'époque, on voyait déjà en lui ce génie argentin qu'il est par la suite devenu, puisqu'on peut même dire qu'à finalement, il est devenu un génie mondial du football?
Non, disons que quelqu'un né comme génie, quelqu'un né avec du talent, et à partir de là, vous ne faites que préparer la suite de votre carrière. C'est ce qui est arrivé, disons, après... sa venue en Espagne et sa continuation au niveau du championnat, disons, italien.
Est-ce qu'on peut dire que Armando Maradona était aussi un homme engagé, parce qu'on connaît ses convictions, un homme de gauche qui n'a pas hésité à exprimer son soutien à des hommes politiques de gauche latino-américains comme Chavez, l'ancien président vénézuélien, ou l'ancien président cubain, Fidel Castro. Est-ce que vous connaissez, à cette époque-là, vous voyez déjà cet aspect engagement, cette qualité d'homme engagé en Maradona?
Non, c'était beaucoup plus un homme de football. Hein. À cette époque, on ne connaissait pas cette facette-là. Bon, je connaissais beaucoup plus dans le monde du football, rien de plus.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et bienvenue à nouveau dans votre émission et nous allons parler de la Centrafrique. Avant d'introduire nos invités, je rectifie une information que je vous ai donnée il y a quelques instants. La Cour constitutionnelle, a rendu sa décision sur les candidatures aux législatives et pas encore sur les candidatures pour les présidentielles. Et donc, contrairement à ce que je vous ai dit plus tôt. Et nous allons donc retrouver nos invités. Nicolas Tchangaï, bonsoir.
Nicolas, oui, bonsoir, madame.
Oui, vous êtes ancien Premier ministre et président de la Convention républicaine pour le progrès social, CRPS, et porte-parole du CO2 2020. C'est la coalition de l'opposition démocratique. Monsieur Albert Yaloké, vous m'entendez?
Oui. Oui, je vous entends. Bonsoir, madame.
Oui, vous êtes porte-parole, monsieur Yaloké, de la présidence centrafricaine. Sylvestre Sokambi, coordonnateur national du réseau des journalistes pour les droits de l'homme en Centrafrique, RJDH, ne nous a pas encore rejoint. Merci, messieurs, d'être avec nous. Mais je vais commencer par une précision, monsieur Tchangaï. Alors, vous nous dites que la Cour constitutionnelle a validé et invalidé certains dossiers pour les législatives. Pourriez-vous nous dire quelle est la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle et il y a quelques instants seulement?
Oui, il y a eu des cas d'invalidation de candidatures. Je pense qu'il y a 78 candidatures qui ont été invalidées pour plusieurs raisons, parce que certains dossiers ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité. Donc, ces dossiers ont été invalidés pour des cas de condamnation pénale, des cas de faux et usage de faux, et des cas aussi de personnes qui sont dans des groupes armés. Donc, ce sont ces raisons qui ont amené la Cour constitutionnelle à prononcer l'invalidation de certaines candidatures.
Et donc, la Cour constitutionnelle avait reçu de l'ANE 1572 dossiers pour les législatives.
Oui, c'est cela, oui.
Merci beaucoup. Donc, pour les présidentielles, on est toujours en attente. 22 dossiers ont été transmis par l'ANE également. Et d'après nos informations, la Cour constitutionnelle devrait rendre sa décision la semaine prochaine.
Oui, la date qui a été évoquée, ce serait le 3 décembre.
C'est la date limite
pour, changement de dernière minute. Oui, je pense que ce serait le 3 décembre que la Cour constitutionnelle va se prononcer sur le dossier des candidats à l'élection présidentielle.
Merci, Monsieur Tchangaï. Alors, Monsieur Albert Yaloké, je vais commencer donc par le travail que mène actuellement la Cour constitutionnelle. Quelles sont les conditions dans lesquelles elle examine ces 22 candidatures transmises, disais-je, par l'ANE? Peut-être avez-vous quelques indiscrétions à partager?
Je n'ai pas d'indiscrétion, madame. Ce que je peux dire par rapport au travail ou au processus électoral, c'est que les dossiers ont été transmis par l'ANE à la Cour constitutionnelle. Il appartient à la Cour constitutionnelle de se prononcer si ces dossiers sont recevables ou pas. Et des conditions sont posées pour qu'un dossier soit retenu, aussi bien sur la moralité, sur la durée de séjour sur le territoire centrafricain, aussi bien sur la nationalité et bien d'autres choses encore. Donc, nous avons confiance, la Cour constitutionnelle doit faire son travail, c'est une institution de la République qu'il faut respecter et je pense que tout le monde est en attente diffusion de la liste des candidats qui seront retenus pour les présidentielles.
Monsieur Yaloké, vous venez d'évoquer les conditions remplies par les candidats dont la durée de séjour dans le pays. Vous le savez autant que moi que la candidature de François Bozizé, l'ancien président, a fait la candidature à la candidature, hein, voilà, de l'ancien président a fait l'objet de vifs débats. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait autant de débats et de controverses sur son dossier?
Mais il n'y a pas que son dossier, hein. Il n'y a pas que lui, il y a 22 personnes qui ont été retenues, 22 dossiers qui ont été déposés.
Mais le cas de François Bozizé, la polémique réside au niveau de l'interprétation divergente de la date de son arrivée dans le pays. Est-ce que vous trouvez que ce débat est pertinent?
Mais beaucoup de Centrafricains se posent des questions, justement. Hein, justifier hein, qu'on a résidé un an ou plus sur le territoire centrafricain avant la date de dépôt des candidatures? Beaucoup de Centrafricains se posent des questions. Et justement, ces questions laissent la place à beaucoup d'interprétations.
Vous faites partie de ces Centrafricains qui se posent des questions?
Ah non, je ne sais pas quels sont les éléments, que les candidats déposent pour justifier de tel ou tel point sur les conditions qui sont posées. Mais en ce qui concerne Monsieur François Bozizé, je me pose pas de questions. Je fais confiance à ce que la Cour constitutionnelle va retenir comme élément pour étudier son dossier.
Sylvestre Sokambi, coordonnateur national du réseau des journalistes pour les droits de l'homme en Centrafrique, le RJDH, nous a rejoint. Monsieur Sokambi, bonsoir.
Bonsoir.
Avant de vous donner la parole, je souhaite qu'on écoute Monsieur Tiangai sur cette controverse qui entoure le dossier de M. François Bozizé, l'ancien président. Est-ce que vous pensez que le débat autour de la durée de son séjour en Centrafrique est justifié? Monsieur Tiangai?
Oui, j'ai bien suivi. Parce qu'effectivement, il y a le problème de la durée du séjour de François Bozizé qui est évoqué à tout bout de champ par les uns et par les autres. Il y a des interprétations qui sont totalement divergentes, ça j'en conviens. Mais seulement ce problème nous amène à réfléchir sur deux points. Le premier point, c'est que est-ce que c'est la faute à Bozizé s'il n'est pas rentré plus tôt dans son pays? Puisqu'il avait envoyé son passeport pour renouvellement au président de la République, François Faustin Archange Touadéra, et ce passeport n'a pas été renouvelé. Ensuite, on a instruit le ministre des Transports pour prendre une circulaire au terme de laquelle aucune compagnie aérienne ne doit amener Bozizé à Bangui. Donc on a créé les conditions pour qu'il ne revienne pas dans son pays, dans les limites fixées par les textes.
Et quelle est votre position au sein de la coalition de l'opposition démocratique, le COD 2020? Est-ce que vous pensez que sa candidature doit être validée ou pas?
Non, écoutez, ce n'est pas à nous de décider de la question de la validation. Je donne mon point de vue sur la question.
Vous représentez ici le candidat Anessé Georges Deloguélé, qui est un grand avocat, donc je suppose qu'au sein de votre coalition, peut-être vous en parlez. Et vous essayez d'analyser vous-même peut-être les éléments juridiques qui sous-tendent le dossier de M. Bozizé.
Mais madame, je n'ai pas encore fini, madame.
Oui, allez-y.
Je dis que la question de la candidature des membres de la COD 2020 n'a pas fait l'objet de débat. Mais le juriste que je suis, je dis que premièrement, on a mis Bozizé dans l'impossibilité de rentrer dans son pays comme il l'a souhaité pendant plusieurs années. Deuxièmement, la question de savoir si les délais de 12 mois, à partir de quand ce délai doit être décompté. Ça doit être décompté par rapport à quoi? Parce qu'il y a deux interprétations possibles. Il y a ceux qui disent que le délai de 12 mois doit être décompté en tenant compte de la date à laquelle le dossier de candidature doit être déposé devant l'autorité nationale des élections. La deuxième interprétation, c'est que pour certains, il faut tenir compte de la date du premier tour du scrutin, qui est le 27 décembre 2020. Bouzizé étant rentré à Bangui le 15 décembre 2019, pour certains, ils pensent qu'il est dans les délais puisque le premier tour du scrutin aura lieu le 27 décembre. D'autres disent que non, c'est à la date du dépôt du dossier que son dossier doit être pris qu'on doit décompter les 12 mois. Donc il y a deux interprétations divergentes. Mais que dit les textes ? Que disent les textes, pardon ? La Constitution.
Très rapidement, s'il vous plaît.
L'électorat. Pardon ?
Très rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Tiangaï.
Oui, la Constitution et le Code électoral parlent de 12 mois ou d'un an, sans préciser si c'est à la date du dépôt du dossier qu'il faut décompter les 12 mois ou si c'est à la date du premier tour du scrutin. Donc, chacun interprète les choses à sa manière. Quoi.
Merci. De quoi donner du fil à retordre à la Cour constitutionnelle qui doit statuer. Alors, Sylvestre, vous m'entendez ?
Oui, je vous suis très bien.
Est-ce que vous pensez que une éventuelle invalidation du dossier de candidature, de l'ancien président Bozizé, pourrait avoir des conséquences sur la paix en Centrafrique, une paix évidemment fragile?
Oui, merci. Je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de me prononcer sur ce sujet qui fait la une de l'actualité en Centrafrique et qui est sur toutes les lèvres. Et pour être direct avec vous, je pense que depuis le retour de François Bozizé en Centrafrique, il y a eu débat autour de tout ce qu'il pose comme acte, de tout ce qu'il prononce comme parole. Et aujourd'hui, autour de sa candidature, il y a de réels soucis, il y a de réels risques que l'invalidation de sa candidature puisse créer des troubles. Et justement, lorsque nous voyons à travers la ville de Bangui le renforcement des dispositifs sécuritaires, etc., à l'approche de la publication de la liste définitive, il y a vraiment de soucis à se faire. Et lorsque nous écoutons ce qui se dit un peu partout dans l'un ou dans l'autre camp, et je pense qu'il y a de sérieuses menaces qui pèsent sur la paix, sur la stabilité relative aujourd'hui en Centrafrique. Donc pour moi, j'essaie seulement de voir, d'écouter ce qui se dit dans les camps des uns et des autres, ce qui se dit dans les quartiers et les mouvements qui se font.
Mais au sein du parti de François Bozizé, le Kwanakwa, ils se sont dit confiants, même déjà au moment d'investir François Bozizé comme candidat, ils se disent plutôt confiants.
Oui, mais tout le monde peut se dire confiant. C'est normal, nous sommes en politique. Tout le monde se dira confiant de gagner les élections. Tout le monde se dira confiant que sa candidature va être retenue. Mais le dernier mot reviendra à la Cour constitutionnelle. Et lorsque nous prenons le débat sous l'angle que Maître Nicolas Tiangaï vient d'évoquer, je pense que sur les deux interprétations, il y a risque que cette candidature-là ne puisse pas être retenue. Et donc, je me prononce dans le cas où cette candidature ne venait pas à être retenue par la Cour constitutionnelle. Je pense que le Kwanakwa, sinon le président Bozizé, a une certaine popularité, il y a des gens qui le soutiennent. Merci. Et on ne contrôle pas tous ceux qui le soutiennent.
Merci beaucoup. En même temps, la Cour constitutionnelle va devoir se fonder sur des éléments juridiques objectifs pour trancher. Édouard Béranger-Ning, bonsoir.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous.
Merci d'être là avec les questions des auditeurs. On les écoute juste après cette pause.
À tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
18h30 à Bangui, à Paoua et à Paris, suite du grand rendez-vous avec nos invités. Nicolas Tiangaï, ancien Premier ministre et porte-parole du COD 2020, la coalition de l'opposition démocratique centrafricaine, et Albert Yaloké, porte-parole de la présidence de la Centrafrique, et Sylvestre Sokambi, coordonnateur national du réseau des journalistes pour les droits de l'homme en Centrafrique, RJDH. Édouard, on va commencer avec une question qui est adressée à M. Tiangaï.
Effectivement, une question de Mme Diop qui demande « Est-ce que la population centrafricaine pourra voter en toute quiétude dans ce contexte sécuritaire instable, M. Tiangaï ?»
C'est là tout le problème. Comme une bonne partie du territoire centrafricain est occupé par les groupes armés, donc, le problème qui se pose, c'est celui de la sécurisation du processus électoral. Actuellement, les groupes armés exercent un contrôle sur 85% du territoire national. Les déplacements ne sont pas faciles. Moi-même, j'ai été victime de cette situation, puisque une mission de mon parti devrait se rendre en province à Kabou et à Kazabandoro. Les éléments de Al-Kati m'avait donc arrêté la délégation et a confisqué donc mon véhicule. Et c'est dire que pendant la période électorale, même pendant la campagne, il y aura des problèmes, non seulement pour les électeurs, mais également pour les candidats. Le problème de la sécurité se posera certainement, et c'est pour ça que nous avons beaucoup d'inquiétudes sur la sécurité des concitoyens pendant la période électorale.
Monsieur Tiangaï, le G5, qui est un groupe d'États et d'institutions internationales partenaires de votre pays, a pourtant appelé les signataires de l'accord pour la paix et réconciliation en Centrafrique a affirmé publiquement leur soutien à la tenue d'élections et a facilité toutes les opérations électorales sans condition ni réserve, je le cite. Donc vous nous expliquez là avec ce que vous avez vécu que sur le terrain cet appel est resté lettre morte.
Oui, parce que moi je ne crois pas beaucoup à la bonne foi des groupes armés, hein. Ils disent une chose aujourd'hui, le lendemain ils font le contraire. Donc, les groupes armés ne respectent pas leurs engagements. Ils ont signé l'accord du 6 février 2019, mais ils ne respectent pas du tout les engagements qu'ils ont pris depuis cette date-là jusqu'à présent.
Merci. Édouard, la deuxième question, c'est pour M. Yaloké.
Pour M. Yaloké, une question de Abdoulaye qui demande « Pensez-vous avoir la solution, M. Yaloké, pour régler définitivement le problème sécuritaire en Centrafrique ?»
Le problème de quoi ?
Le problème sécuritaire.
Ben, le problème sécuritaire, il faut voir dans quel état nous avons le président Fossa Akanj Touadéra a trouvé le pays quand il était arrivé. Vous savez, le monsieur Nicolas Tiangaï qui parle, il a été pillé quand il était Premier ministre. Son domicile a été pillé quand il était Premier ministre. Il était incapable d'assurer sa propre sécurité, lui non plus.
À Bangui.
Alors de là à parler à Bangui, il est là, vous pouvez lui poser la question. Parler de le processus électoral. Aujourd'hui, les conditions dans lesquelles les élections se sont tenues en 2015, ça n'a rien de comparable avec ce que nous vivons aujourd'hui en 2020. Le pays est assuré d'aller aux élections dans des conditions optimales.
Avec 85% de territoire qui échappe au contrôle des forces régulières.
Arrêtez, madame. N'écoutez pas tout ce que les gens disent. 85%, ça vient d'où ? Est-ce que les gens pouvaient se...
C'est ce que M. Tiangaï vient de dire.
Ben oui, mais M. Tiangaï, il dit tout. Il dit tout et son contraire. Vous savez, c'est quelqu'un qui a été Premier ministre. On a pillé chez lui. C'est pour vous dire que lui-même, il n'était pas en mesure d'assurer sa propre
D'accord.
sécurité.
D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez aller au droit à la question de Abdoulaye? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait définitivement régler le problème sécuritaire dans votre pays? On n'ose pas mettre l'échéance dans un mois, c'est-à-dire d'ici les élections, mais dans un court terme, quelle que soit l'issue de ce scrutin, est-ce que vous pensez qu'un autre candidat ou le vôtre, Faustin Touadéra, s'il est réélu, est en mesure d'apporter cette paix définitive qu'aspire le peuple centrafricain?
L'accord de paix du 6 février 2019 est en œuvre, est mis en œuvre. Et cet accord nous permet aujourd'hui de connaître des avancées sur beaucoup de points. Vous savez, personne ne se prononce pour empêcher les élections en République centrafricaine. Et nous voyons que d'ici demain, vous verrez que tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut protéger les élections. Toutes les dispositions prises au niveau du gouvernement pour que la sécurité soit assurée. Toutes les dispositions sont prises avec la communauté internationale, et notamment la MINUSCA, pour que la sécurité des élections soit assurée.
Monsieur Yanoké, vous dites que personne n'ose dire qu'il est opposé aux élections, mais Monsieur Tianga vient de donner cet exemple. Mais dans les faits, il semble bien que les groupes armés signataires de l'accord posent des actes contraires à ce qu'ils peuvent affirmer officiellement.
Quels groupes armés? Vous savez tout simplement, et il faudrait qu'on le dise à la communauté, la communauté internationale est là pour observer ce qui se passe. On raconte n'importe quoi. Il y a des groupes qui sont réfractaires justement à ce qu'on leur enlève leur pouvoir sur les zones qu'ils contrôlent. Parce qu'on est aujourd'hui en face de prédateurs. Des gens qui veulent continuer à semer le trouble pour pouvoir exploiter illégalement les zones dans lesquelles ils se trouvent.
Une économie de guerre qui profite de l'instabilité.
Voilà, ils profitent de l'instabilité. Mais ils sont battus en brèche régulièrement. On ne peut pas parler aujourd'hui de situation de sécurité qui n'existe pas.
Merci.
Qu'est-ce qu'on vivait en 2015? C'est ce que je veux dire. La paix va revenir et les élections vont se passer dans une transparence et une stabilité.
Merci beaucoup, M. Yanoké.
Tout ce qu'on raconte, c'est des gens qui ont peur d'aller aux élections. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance et ils trouvent toutes les raisons pour raconter n'importe quoi au monde entier. Et ce n'est pas bon.
En tout cas, M. Tianga est sur ce plateau. Il vous répondra tout à l'heure, M. Yanoké. Merci à vous, Edouard, et merci à nos auditeurs qui nous écrivent et continuez à envoyer vos questions sur notre page Facebook. Regardez chaque jour, les thèmes de votre émission sont postés et vous pouvez donc poser vos questions et peut-être que vous les entendrez à l'antenne.
Bien entendu.
Ça a été le cas avec Mme Diop et Abdoulaye. Alors, Sylvestre Sokambi, la sécurité, c'est l'aspect le plus inquiétant dans la préparation de ce scrutin. Quand on écoute messieurs Yanoké et Tiangaï, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde et ne font pas la même lecture de la situation sécuritaire, du contexte sécuritaire dans lequel ce double scrutin pourrait se tenir. Vous, quelle est votre lecture, Sylvestre? Est-ce qu'il y a une légère avancée ou pas?
Merci, mais je pense qu'entre 2015 et 2020, on doit reconnaître qu'il y a eu des avancées. En 2015, par exemple, lorsqu'on était au référendum, ça tirait même au niveau de Bangui. Il y avait même des urnes qui ont été cassées au niveau de Bangui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une nette amélioration, mais cette amélioration n'enlève pas toute l'inquiétude que portent les Centrafricains. Parce que comme je l'écoutais tout à l'heure ici, entre 2012 et aujourd'hui, il y a eu une bonne douzaine d'accords qui ont été signés par les groupes armés qui sont opérationnels en Centrafrique. Mais le problème qui se pose, le respect ne suit pas. Et donc, on ne peut pas se dire qu'il y a des accords qui ont été signés ou l'accord du 6 février qui a été signé et qu'on se fonde sur ça pour dire que
il y aura une élection transparente d'ici le 27 décembre.
Dans des conditions optimales. Je pense que cette inquiétude-là est réelle. Je sais aussi de l'autre côté que le gouvernement et la MINUSCA ont établi un plan de sécurisation des élections. mais nous attendons des faits, nous attendons les réalités sur le terrain.
Ce qui n'est pas encore le cas pour le moment.
Tout à fait. Lorsque l'enrôlement, par exemple, avait commencé dans le Nord, il y a eu blocus, il a fallu des négociations avec un groupe armé signataire de l'accord de 6 février pour que la situation soit débloquée. Même si la situation est débloquée, il y a beaucoup de Centrafricains qui n'ont pas pu s'enrôler pour ces élections-là.
Merci. Donc, mais en tout cas, la commission électorale, parlons justement de ce processus d'enrôlement, et ça nous permet d'évoquer les préparatifs au niveau de la commission électorale. L'ANE dit avoir enrôlé plus d'1,8 million de Centrafricains contre environ 2 en 2015 et 2016. Est-ce que c'est cette insécurité qui persiste qui explique la baisse des chiffres, Sylvestre?
Oui, moi je constate qu'il y a eu baisse des chiffres, mais il y a plusieurs causes. Il y a l'insécurité parce que dans le Nord, par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu s'enrôler. Mais il y a eu aussi la manipulation des matériels parce que c'est pour une première fois. Il y a eu la manipulation des appareils qui a aussi fauté. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je constate qu'il y a, on dit, plus d'un million 800 000 électeurs. Et je constate par la même occasion que l'opposition a demandé aussi l'audit du fichier électoral. Et donc, pour moi, il y a la réalité de l'inquiétude qui est là, même si avancée, il y a eu entre 2015 et 2020. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas se voiler la face.
Merci.
Mais aujourd'hui, il faudrait que et le gouvernement et l'administration travaillent réellement pour que ces groupes armés-là favorisent, parce qu'il faudrait que ce sont ces groupes armés-là qui vont favoriser la transparence des élections.
Merci
Nous
beaucoup.
Nous savons qu'en 2015-2016, par exemple, il y a eu beaucoup de leaders de groupes armés qui ont été élus à l'Assemblée nationale parce que ces groupes armés, dans leur zone, influençaient le vote.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvestre, pour ces explications. Monsieur Tiangaï, votre coalition a récemment saisi le secrétaire général de Nations Unies, mais aussi l'Union africaine et le président congolais, qui est le président en exercice de la CIRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, pour se plaindre de l'organisation de ce double scrutin. Qu'est-ce qui ne va pas d'après vous? Vous parliez de dérapage sur le processus électoral. Quels sont ces dérapages?
Bon, vous savez, nous avons formulé plusieurs revendications. D'abord parce que nous avions pensé que pour aller à des élections crédibles, il fallait d'abord le fichier électoral soit un fichier électoral accepté par tous. Nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de compatriotes qui n'ont pas été enrôlés. Il y a plusieurs préfectures où l'enrôlement n'était pas fini. Et parlons des groupes armés, les 3R avaient empêché l'enrôlement des Centrafricains dans la Nana Mandéré et dans l'Ouampéndé. Donc, pendant plusieurs jours, les gens n'ont pas pu se faire inscrire sur les listes électorales. Il a fallu des négociations avec les groupes armés, particulièrement les 3R, et un délai supplémentaire de 10 jours avait été accordé aux agents tablettes pour reprendre les opérations. Malheureusement, ça n'a pas duré 10 jours, ça a duré seulement 3 ou 4 jours, ça a été interrompu. Et c'est ce qui explique que aujourd'hui le nombre d'électeurs en 2020 soit inférieur à celui 2015, ce qui n'est pas normal.
Alors que la sécurité semble avoir été améliorée, selon Sylvestre et M. Yaloké. C'est un peu contradictoire. Oui.
La population a augmenté parce que les jeunes qui n'avaient que 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans à l'époque n'avaient pas pu voter. Aujourd'hui, ils sont devenus tous majeurs. Normalement, le nombre des électeurs devrait être supérieur à celui de 2015. Deuxièmement, en 2015, les réfugiés avaient été autorisés à voter. Et cette année, le pouvoir n'en a pas voulu. Le pouvoir avait estimé que les réfugiés devraient voter, ils voteraient contre lui. Et donc, le projet de loi autorisant les réfugiés à voter avait été retiré au dernier moment par le gouvernement.
Merci beaucoup, M. Tiangaï, pour ces explications. On marque une pause. Restez avec nous pour la suite du Grand Rendez-vous sur la Centrafrique.
Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous amorçons la dernière partie de cette émission avec nos invités, Albert Yaloké, porte-parole de la présidence centrafricaine, Sylvestre Sokambi, coordonnateur du réseau RJDH, le réseau des journalistes, et Nicolas Tchangaï, ancien Premier ministre et porte-parole du Code 2020, la coalition de l'opposition. Il représente ici le candidat Anissé Georges de Loguélé. Monsieur Albert Yaloké, Monsieur Tchangaï a énuméré un certain nombre de griefs relatifs à la préparation de ces élections concernant le fichier électoral, notamment. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces problèmes qu'il a relevés?
Ben, vous savez, madame, ce qui est très intéressant en 2020, c'est que la sécurisation, le niveau de sécurité est très élevé en 2020 qu'en 2015. C'est-à-dire l'explication qu'on a donnée par rapport à la baisse du nombre de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales ne correspond pas à la réalité des choses. Aujourd'hui, l'inscription finit par la biométrie. C'est-à-dire que vous produisez les papiers qui vous permettent de vous inscrire et à la fin, on vous fait une photo biométrique qui permet de dire que la personne A qui vient de s'inscrire, voilà sa photo, et elle ne peut plus aller s'inscrire sur un autre bureau d'inscription. Et à l'époque, en 2015, un même père de famille venait tout seul inscrire ses 5 enfants ou ses 10 enfants.
Donc vous affirmez qu'avec le système mis en place, le fichier électoral a été nettoyé et plus transparent.
Exactement.
D'accord.
C'est biométrique.
Et sur les autres aspects,
pourquoi aujourd'hui, on note cet écart et ce qui est normal, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir vous inscrire ici, aller vous inscrire dans un autre bureau et voter à deux endroits différents. C'est biométrique et ça a permis justement d'avoir une clarté, un nettoyage au niveau du fichier électoral. C'est ce qui s'est passé.
Mais la Cour vous accuse aussi d'avoir modifié de manière unilatérale certaines dispositions du Code électoral.
Non, mais le Code électoral a été approuvé par l'Assemblée nationale. Le Code électoral est passé par l'Assemblée nationale. Alors, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on parle de manipuler ou bien de transformer. C'est les députés qui ont voté. Et le président de la République, ils ont adopté, le président de la République a promulgué le code électoral. Ça, c'est des institutions de la République qui fonctionnent, respectons leur travail.
Monsieur Tchangaï, est-ce que c'est pour autant ces inquiétudes justifient votre appel à un report des élections? Parce que vous dites que si le temps imparti est trop court pour aller à des élections inclusives, transparentes et apaisées, peut-être il vaut mieux reporter le scrutin.
Bon, j'ai entendu le porte-parole de la présidence dire que c'était nous qui ne voulions pas aller aux élections. Mais je crois que dès l'ouverture des dépôts de candidature, nous, à la COD 2020, nous n'avons pas fui devant nos responsabilités. Au sein de la COD 2020, il y a 6 candidats à l'élection présidentielle. Et chaque parti membre de la COD 2020 a présenté plusieurs candidats à l'élection, aux élections législatives. C'est-à-dire que nous aussi, nous voulons aller aux élections pour permettre au peuple sud-africain de choisir, n'est-ce pas, ses dirigeants. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que ces élections soient transparentes, qu'elles soient apaisées et qu'elles soient inclusives.
Donc pour vous, on peut maintenir le calendrier électoral?
Mais nous n'avons jamais, contrairement à ce que les gens disent, nous n'avons jamais demandé une transition pour aller dans un gouvernement éphémère d'Union nationale. Ça n'a jamais été notre objectif. Notre objectif, c'est que nous voulons que ces élections se fassent dans des conditions qui permettent aux Centrafricains de dire oui, telle personne qui a été élue comme président de la République ou comme député à l'Assemblée nationale mérite donc sa place.
Merci.
Mais pour cela, il faut que ces élections-là soient apaisées. Nous, nous sommes des démocrates, nous voulons que les élections ne débouchent pas sur une crise post-électorale parce que des gens ont été mal élus. Voilà pourquoi nous avons demandé qu'il y ait une concertation nationale
sur les conditions de sécurisation du processus électoral et sur un certain nombre de revendications légitimes que nous avons formulées.
D'accord. Monsieur, il nous reste à peine 3 minutes pour boucler cette émission et je vais m'adresser à vous, Sylvestre. En quelques mots, qu'en est-il du financement de l'ANE? Le gouvernement a contribué à hauteur d'1 milliard de francs CFA. L'ANE avait besoin, dit avoir besoin de 21 milliards pour organiser toutes les étapes de ce processus. Est-ce que le budget est bouclé? Sylvestre, non, très rapidement, s'il vous plaît.
Oui, je pense qu'il y a toujours un problème de financement au niveau de l'ANE et cela est inquiétant pour la suite du processus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous, même si on évoque la question des procédures au niveau interne, mais je pense que la question du financement risque de nous rattraper dans l'organisation de ces élections.
Monsieur Yaloké, qu'en est-il du financement? Est-ce que l'ANE a tous les fonds nécessaires pour organiser cette élection?
Mais oui, il y a eu justement une contribution du gouvernement ces derniers temps pour combler les difficultés de financement qu'avait l'ANE.
L'ANE a demandé 21 milliards. Est-ce que les 21 milliards ont été débloqués? On sait qu'il y a plusieurs partenaires qui ont déjà contribué, la France, les États-Unis, l'Union européenne, le Japon ou les PNUD ou la MINUSCA. Mais est-ce que ce financement est prêt aujourd'hui?
Le financement est la contribution justement de ces partenaires sera à terme financée. Ça ne pose aucun problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un comité stratégique qui se réunit régulièrement. Ce comité stratégique réunit les membres du gouvernement. Ce comité stratégique réunit les membres de l'opposition, la société civile, les partenaires internationaux. Et grâce à cela, toutes les difficultés que rencontre l'ANE sont évoquées lors de la réunion de ce comité stratégique et des solutions sont trouvées.
Merci.
Donc, en ce qui concerne le financement, aussi bien les élections que le financement de la sécurité, toutes les dispositions sont prises et nos partenaires sont là pour nous soutenir.
Un mot, M. Tianga, vous direz un mot en 30 secondes sur ce processus, mais je voulais demander à M. Yaloké, que répondez-vous à l'appel à une concertation avant les élections que vient de lancer l'opposition à travers M. Tianga?
Allô?
Oui, M. Yaloké, un mot, que répondez-vous au souhait de l'opposition à organiser une concertation avant les élections? Pour aller aux élections dans un contexte apaisé et consensuel.
Oui, on va se concerter sur quel sujet? L'ANE dit que le calendrier est tenu. L'ANE dit qu'elle réunit toutes les conditions pour que les élections se fassent. Nous avons mis en place des institutions qui fonctionnent. Laissons les institutions faire leur travail. On va se concerter sur quoi?
Merci. Monsieur Tiangaï, est-ce que vous êtes confiant que l'ANE va boucler son budget d'ici les élections?
Eh bien, justement, vous avez dû remarquer les hésitations du porte-parole de la présidence. Actuellement, l'ANE n'a pas les fonds, n'a pas bouclé le budget pour aller aux élections. Et ça, c'est une autorité publique. Et donc, vous comprenez pourquoi le porte-parole de la présidence de la République a des difficultés pour répondre à cette question. Même les partenaires extérieurs n'ont pas débloqué les fonds qui sont promis. L'exemple de la France est là, où la France devait donner 300 000 euros a décidé à la dernière minute de ne pas le faire à cause des critiques.
Merci beaucoup, M. Tiangaï du Code Coalition de l'Opposition, Albert Yaloké de la présidence centrafricaine et Sylvestre Sokambi du Réseau des journalistes centrafricains. Merci d'avoir suivi cette édition de Grand Rendez-vous. Restez sur Africa Radio.